RCF.
Bonjour chers auditeurs de RCF Vendée et bonjour Père Antoine Ouavie.
Bonjour Nathalie.
C'est toujours avec le même bonheur que je vous retrouve et que je retrouve nos auditeurs pour notre émission hebdomadaire « L'Église en question ». Avec vous, nous poursuivons l'approfondissement du mystère de l'Église, surtout en ce temps pascal, où nous avons la joie, au fur et à mesure des célébrations, de redécouvrir vraiment les textes de la fondation de notre Église. Et ça fait vraiment partie de la joie de Pâques. Donc en tout cas, notre recherche, c'est toujours d'essayer de définir cette Église, de mieux la comprendre, de mieux l'aimer. Et depuis quelques séances, c'est à travers le sacrement de l'ordre que vous voulez nous aider à mieux savourer la grâce qu'est l'Église pour notre salut. Alors, Père Antoine, vous aviez intitulé cette rubrique « Église, communauté de foi, communauté d'interprétation ». Et c'est toujours dans ce cadre que vous avez voulu nous expliquer plus profondément en quoi consistait ce sacrement de l'ordre. Et nous avions déjà découvert, ou en tout cas retrouvé, le fait que l'ordre se divise, l'ordre sacerdotal, se divise en trois degrés, les diacres, les prêtres et les évêques, qui sont finalement les seuls à avoir la plénitude du sacrement de l'ordre. Pendant trois séances, nous avons exploré, c'était tout à fait intéressant, ce qu'était réellement le diaconat, et en particulier le diaconat permanent. Mais ça, je pense qu'on pourrait continuer, mais enfin, il faut bien avancer. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous souhaitez nous parler du deuxième degré de l'ordre, c'est-à-dire le presbytérat. Autrement dit, le sacrement des prêtres.
Oui.
Alors, si je me souviens bien, on avait déjà abordé, en fait, à cause du terme de presbytérat, il y a assez longtemps, quand on parlait de l'Ancien Testament, vous nous aviez fait un développement, justement, sur ce terme. Peut-être que pour nos auditeurs, et pour moi, vous pouvez peut-être revenir un petit peu, préciser donc le rôle des prêtres déjà dans l'Ancien Testament, et quelle est la continuité, mais aussi, j'imagine, quel est le changement du presbytérat entre l'Ancien et le Nouveau Testament?
Oui, les premières communautés chrétiennes ont opéré ce qu'on a appelé l'inculturation par contestation. C'est les travaux du père G.Y., qui est jésuite, qui ont montré cela. Et le père J dit ceci: ce que j'ai appelé l'inculturation fondamentale consiste dans deux faits inséparables l'un de l'autre. Le premier fait est que la liturgie chrétienne est structurellement enracinée dans le culte juif, tout en effectuant une réinterprétation radicale de celui-ci. Le deuxième fait est que cette réinterprétation se réalise au moins pour une part à l'intérieur du processus d'inculturation du christianisme et déjà pour une part du judaïsme dans un milieu grec. Aujourd'hui, nous les prêtres, en suivant la culture juive et la Bible, nous sommes les descendants, on peut dire, des Lévites dans l'Ancien Testament. On aurait donc dû nous appeler des Lévites ou des Lévitiques, je ne sais pas. Mais pour montrer la radicalité nouvelle du christianisme naissant, les premiers chrétiens ont créé un terme nouveau pour parler de la fonction sacerdotale des prêtres. On les a appelés les anciens presbyteroi, presbyteros. Ce terme donne le nom connu de presbytère où demeure le prêtre. Il s'agit ici d'une création pour manifester la nouveauté radicale du sacerdoce ministériel dans la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Alors, dans le Nouveau Testament, on trouve 12 fois l'expression et 8 fois sur les 12 ce terme typique à l'église de Jérusalem qui fait référence au conseil juif des anciens. Donc, les presbytres sont associés aux apôtres et à l'apôtre Jacques. J'ai beaucoup de référence, j'en cite une seule, acte 11, verset 30. Ils apparaissent aux marges de l'espace de l'église de Paul dans acte 14, verset 23 et sont déjà une figure clairement dessinée dans 1 Timothée 5, verset 17. Donc, on voit comment ce changement a été opéré et comment il a été adapté tout de suite dans le Nouveau Testament, comme le montrent ces références que je viens de citer là.
D'accord, donc volontairement un changement de terme. Oui. Pour montrer qu'il y a quand même une rupture,
oui.
Mais tout en s'inspirant quand même grandement de la tradition
absolument.
Des Lévites.
Absolument.
Ben écoutez, merci beaucoup pour ce rappel, c'est le moins qu'on puisse dire, qui nous aide un petit peu mieux à ancrer l'histoire de notre Église. Mmh. Et alors, est-ce que vous pourriez nous faire une histoire de l'ordre depuis les origines de l'Église? C'est un gros morceau, oui. J'imagine.
Oui, je dois dire que ce n'est pas simple et je vais encore faire un rappel. Les historiens considèrent le modèle ecclésial présenté dans les lettres de captivité d'Ignace d'Antioche, datées des années 115 à 117, comme la matrice de la structure de l'Église, comme elle s'est imposée en Occident et en Orient entre le 2e et le 3e siècle. Ce modèle repose sur trois principes: la mise en place d'une organisation à l'échelle de la cité, l'établissement de l'évêque comme centre d'union de l'assemblée eucharistique et point de constitution de l'Église, la définition d'une hiérarchie ministérielle à trois niveaux, celui de l'épiscope qui donnera évêque, des presbytes, c'est-à-dire les anciens qui donnera les prêtres, et celui des diacres. Ce modèle va s'imposer par rapport au modèle qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, pour ceux qui sont habitués à lire le Nouveau Testament, la traçabilité n'est pas très évidente. Donc, on peut le percevoir parce que Saint Paul établit quelquefois des épiscopes et après, on ne voit pas la suite. Donc, c'est ça qui est difficile. Donc, le modèle paulinien n'est pas tout à fait le modèle qui a triomphé. On peut quand même dire qu'il y a eu dans l'histoire d'abord une génération, je peux dire, d'une église épiscopalienne entre guillemets, c'est-à-dire une église où il y a à la tête que des évêques, et ce modèle va se poursuivre jusque dans les années 170. De ce modèle primitif, les prêtres sont subordonnés aux évêques et fonctionneront entre eux dans une forme de collégialité.
Vous êtes sur RCF Vendée, c'est l'Église en question. Et aujourd'hui, le père Antoine Nouavi nous parle de l'ordre du presbytérat, c'est-à-dire le deuxième degré de l'ordre sacerdotal, celui que nous connaissons bien sous le nom de prêtre. Et dans l'origine, finalement, de la naissance de l'ordre des prêtres, vous nous dites que la trace se trouve d'abord dans Ignace d'Antioche,
oui.
Donc au tout début du deuxième siècle, et que dans les Actes des Apôtres et également dans le modèle de Saint Paul, mmh. On voit essentiellement les évêques,
oui.
Qui sont aidés dans les tâches plus matérielles auprès du peuple par les diacres. C'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est
bon.
Ça. Oui.
Et alors, les prêtres, vous nous le disiez juste avant la petite coupure, il semble que cette fois, on les voit réellement apparaître dans les années 170.
C'est ça.
Même si Ignace d'Antioche en parle avant. Donc,
tout à fait.
Ça s'est mis en place forcément avec le temps. Alors, qu'est-ce qui a défini ce besoin de créer l'ordre, finalement, à l'époque intermédiaire, qui nous paraît aujourd'hui essentiel, et je dirais peut-être avec nos yeux du 21e siècle? C'est peut-être le prêtre qui nous paraît le degré le plus fondamental.
Manifeste, on peut dire.
Oui. Manifeste, oui. En tout cas, le plus,
oui.
Visible.
Oui.
Or, à l'époque, c'est un degré intermédiaire. Et qu'est-ce qui l'a rendu nécessaire, en fait?
Alors, le basculement va être le 4e siècle, me semble-t-il. Et on peut dire, sans se tromper, que le presbytérat a toujours fonctionné à l'ombre de l'épiscopat. L'épiscopat, historiquement, était considéré comme la matrice à partir de laquelle est né l'ordre du presbytérat. Mais en même temps qu'on dit cela, il ne faut pas oublier que dans certaines localités, du fait de l'isolement, le manque d'une organisation comme nous l'avons aujourd'hui, à cause quelquefois des caprices des uns et des autres, certains prêtres se sont pris pour des évêques, voilà, prenant un peu la place des évêques. Donc, il y a ça. Donc, ce modèle prêtre-épiscope l'Europe est un modèle qui a fonctionné pendant longtemps, quelquefois l'un s'effaçant au détriment de l'autre ou bien au profit de l'autre. Donc, ce n'est pas tout à fait clair. Donc, il faut se rendre compte des choses comme cela au départ, mais ce n'est qu'après le 4e siècle que les choses vont changer.
Donc, au départ, les prêtres étaient simplement des envoyés, des oui, émissaires de l'évêque qui ne pouvaient pas être partout.
Tout à fait.
C'est le signe que l'Église se développait
oui,
et qu'effectivement, il fallait quand même une présence qui représente l'évêque.
Tout à fait.
Mais évidemment, avec le péché humain,
il
y a pu avoir des...
Voilà.
Alors, ce fameux 4e siècle qui a l'air d'être un tournant, qu'est-ce qui se passe?
Alors, le 4e siècle va consacrer la hiérarchisation dans l'Église. L'écart va se creuser entre les fonctions liturgiques et les fonctions sulbatennes, entre guillemets. Hein. Le canon 16 du Concile de Nicée, donc le Concile de Nicée commence le 25 mai 325, en énumérant les différents membres de l'ordo, cite les évêques, les presbytes et les diacres.
Ah, cette fois on y est, c'est bon.
En y ajoutant les autres clercs, le canon de Laodicée 380 distingue soigneusement par leur vocabulaire les ministres qui exercent une fonction sacrée auquel on réserve le titre de hiératikoi, donc la hiérarchie, et les autres clercs mineurs appelés cléricoi. Le 4e siècle va consacrer les clercs majeurs à l'intérieur de cet ordre. Il faut distinguer les évêques qui seuls ont le pouvoir de réconcilier les pénitents, confectionner le Saint-Crème et consacrer les vierges. Ensuite, dans l'ordre majeur, il y a les prêtres, de plus en plus nombreux, souvent installés loin de la cité épiscopale, qui ont le droit de baptiser, au moins en situation d'urgence, et malgré certaines réticences manifestées à l'époque, ont le droit de prêcher et d'enseigner les fidèles. Ils conservent une supériorité hiérarchique sur les diacres qui, eux, d'après le canon de Nicée toujours, sont ordonnés non ad sacerdotium, sed ad ministerium. Donc, non pour devenir prêtre, mais pour le service. Donc, les diacres sont chargés de l'administration des biens ecclésiastiques et des œuvres de charité, n'apportant la célébration liturgique que le concours de leur assistance pour la lecture de l'évangile et la présentation des offrandes à l'officiant. Et pour terminer avec ce qu'apporte ce 4e siècle où se passe vraiment le basculement, il faut ajouter que c'est à partir de ce siècle qu'on va assister à une sorte de disqualification religieuse des laïcs, aggravé par l'état d'analphabétisme général qui règne depuis la chute de l'Empire romain. Évidemment, avec l'état de nos investigations et de l'avancement de nos émissions avant la fin du mois de juin, nous allons consacrer une série d'émissions sur les laïcs dans l'Église. Donc, pour que nos auditeurs comprennent bien les choses vont bien se passer et le basculement, ce sera le 4e siècle. Et à partir de ce 4e siècle, on va voir évoluer le rôle du prêtre et surtout le prêtre s'affirmer un peu plus dans l'organisation territoriale et même hiérarchique de l'Église. C'est ce qu'on peut dire dans cette histoire qui n'est pas tout à fait linéaire, mais j'ai essayé de montrer comment les choses ont évolué.
Très bien. Mais écoutez, cette très rapide histoire de l'installation de l'ordre presbytéral, ça peut être éclairant. C'est vrai qu'on voit d'abord que l'Église a cherché la meilleure manière de faire. La division, alors je ne sais pas s'il faut dire des charismes ou en tout cas des charges, avec quand même, on voit se dessiner quand même un rôle plus liturgique,
c'est ça.
Pour les prêtres,
c'est ça.
Et avec pour les diacres un rôle plus au niveau du service des frères. Cette évolution, donc on va la poursuivre, j'imagine, la semaine prochaine.
Absolument.
Vous allez nous expliquer tout ça. En tout cas, ça donne une belle ouverture sur ce qu'est un prêtre et aussi à quel point il a fallu que l'Église, avec l'aide du Saint-Esprit, ajuste son comportement.
Absolument.
Je vous remercie beaucoup, Père, et puis je vous souhaite à tous une très belle journée à l'écoute de notre radio. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de notre série « L'Église en question ».